Chapitre 41. Jeudi 17 décembre, l'après-midi. Quand Simone entre dans la chambre d'hôpital, Kenneth se tient bien droit dans son lit. Son visage a retrouvé un peu de couleur et il n'a pas l'air surpris de la voir franchir la porte. Simone vient jusqu'à lui, s'incline et pose délicatement sa joue contre la sienne.
« Tu sais de qui j'ai rêvé, Sixan ?»«
Non. »«
J'ai rêvé de mon père. »«
De grand-père ?»
Il rit doucement.
« Tu t'imagines ? Il était dans l'atelier recouvert de sueur, le sourire aux lèvres. « Mon garçon, c'est tout ce qu'il m'a dit. Je peux encore sentir cette odeur de gazole. »
Simone déglutit. Un nœud dur et douloureux est coincé dans sa gorge. Kenneth secoue prudemment la tête.
« Papa, chuchote Simone, papa, tu te souviens de ce dont on a parlé juste avant que tu te fasses renverser ?»
Il la regarde d'un air sérieux, et soudain, une lueur semble illuminer son regard vif et intelligent. Il tente de se lever, mais bouge trop brusquement et retombe dans le lit.
« Aide-moi, Simone !» dit-il impatiemment. « Il faut faire vite, je ne peux pas rester ici. »«
Tu te souviens de ce qui s'est passé, papa ?»«
Je me souviens de tout. »
Il se passe la main sur les yeux, se racle la gorge, puis tend les bras.
« Prends mes mains !»
ordonne-t-il. Et cette fois, quand Simone fait contrepoids, il réussit à se redresser complètement dans le lit et à basculer les jambes sur le côté.
« Passe-moi mes vêtements !»
Simone court au placard et récupère ses vêtements. Elle est agenouillée en train de lui enfiler ses chaussettes quand un jeune médecin ouvre la porte.
« Je dois sortir d'ici !»
dit Kenneth d'un ton revêche avant même que l'homme ne soit entré dans la pièce. Simone se lève.
« Bonjour !» dit-elle en serrant la main du jeune médecin. « Je m'appelle Simone Bark. Hola, tu veux fiel ?»
L'air gêné, il se tourne vers Kenneth qui est en train de boutonner son pantalon.
« Enchanté !»
dit Kenneth en fourrant la chemise à l'intérieur de son pantalon.
« Je suis navré de ne pas pouvoir rester, mais nous sommes dans une situation d'urgence. »
« Je ne peux pas vous obliger à rester, » dit le médecin calmement. « Mais vous devriez comprendre par vous-même qu'il vous faut être prudent après le coup violent que vous avez reçu à la tête. Vous vous sentez peut-être bien maintenant, mais des complications peuvent survenir dans une minute, dans une heure, ou ne se manifester que demain. »
Kenneth va au lavabo et s'asperge le visage d'eau froide.
« Comme je vous l'ai dit, je suis navré, mais je dois aller à la mer. »
Le médecin les regarde d'un air étonné, descendre le couloir à la hâte. Simone tente de raconter sa visite chez Aïda. Tandis qu'ils attendent l'ascenseur, elle voit que Kenneth est obligé de s'appuyer contre le mur.
« Où on va ?» demande-t-elle.
Pour une fois, Kenneth ne proteste pas quand elle s'installe derrière le volant. Il se contente de s'asseoir à côté d'elle, boucle sa ceinture et se frotte le front sous le bandage. Comme il ne répond pas, elle répète «
Il faut que tu me dises où on va. Comment on fait pour aller là-bas ? »
Il lui adresse un regard curieux.
« À la mer. Il faut que je réfléchisse. »
Il s'adosse sur le siège, ferme les yeux et reste silencieux un moment. Elle commence à se dire qu'elle a fait une erreur. Son père est manifestement malade. Il doit retourner à l'hôpital. Il rouvre alors les yeux et dit brièvement
« Tu prends Sankt-Eriksgatan. Tu passes le pont et ensuite tu prends à droite sur Odengatan. Tout droit jusqu'à Estrastation. Là, tu suis Valhallavägen vers l'est jusqu'à l'Institut suédois du film et tu tournes sur Lindaravängvägen. Cette rue mène tout droit au port. »
« Qu'est-ce qu'on ferait d'un GPS ?» sourit Simone.
« Je me demande, » dit Kenneth d'un air pensif.
Puis il se tait.
« Quoi ?»«
Je me demande si les parents ont compris ce qui se passe. »
Simone lui adresse un rapide coup d'œil, tandis que la voiture dépasse l'église Gustave Vasa. Elle aperçoit une longue file d'enfants vêtus de robes. Ils portent des bougies dans les mains et franchissent lentement les portes de l'église. Kenneth se racle la gorge.
« Je me demande si les parents ont compris ce que fabriquent leurs enfants. »
« Chantage, abus, violence et menaces, » répond Simone d'une voix lasse. « Les petits chéris de papa et maman. »
Elle repense au jour où elle est allée à Tensta, chez le tatoueur. Ses enfants qui tenaient une fille par-dessus la balustrade. Ils n'avaient absolument pas peur. Ils s'étaient même montrés menaçants, dangereux.
Elle repense à la façon dont Benjamin avait essayé de l'empêcher d'aller voir le garçon à la station de métro. Maintenant, elle comprend qu'il devait être l'un d'eux. Il faisait probablement partie de ceux qui portaient des noms de Pokémon.
« Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ?» dit-elle pour elle-même. « Ce qui m'est arrivé, Sixon, ce n'était pas un accident. On m'a poussé sous une voiture, » répond Kenneth, la voix tranchante. « Et j'ai vu qui l'a fait. »«
On t'a poussé ?»«
Qui ?»« C'était l'un d'eux. C'était un enfant, une fillette. »
Des candélabres électriques éclairent les fenêtres obscures de l'Institut suédois du film. De la neige fondue drape la chaussée. Des nuages lourds recouvrent le quartier de Gerdet. Une bonne averse de dégel ne devrait pas tarder à tomber sur les maîtres et leurs chiens heureux. Loudun est une pointe de terre à l'est du port autonome de Stockholm. À la fin des années 1920, la pointe a été transformée en port pétrolier avec près d'une centaine de citernes. La zone comporte des bâtiments industriels peu élevés, un château d'eau et des docks pour des conteneurs, des entrepôts souterrains et des quais. Kenneth sort la carte de visite froissée qu'il a trouvée dans le portefeuille du garçon.
« 18 Loudswegen, » dit-il en faisant signe à Simone d'arrêter la voiture.
Elle se gare sur une zone de bitume entourée de hautes clôtures métalliques.
« On fait le reste à pied, » dit Kenneth en détachant sa ceinture.
Ils avancent entre les énormes citernes et voient de fins escaliers serpentés autour des bâtiments cylindriques. De la rouille s'est infiltrée entre les plaques de métal sur les attaches des escaliers et garde-fous. Une pluie fine et froide s'est mise à tomber. Les gouttes cinglent le métal. La nuit va arriver d'un moment à l'autre et alors ils ne verront plus rien. D'étroits passages cheminent entre les empilements de grands conteneurs jaunes, rouges et bleus. Il n'y a pas de lumière, juste des citernes, des docks, de petits immeubles de bureaux et, plus près de l'eau, le quai avec ses grues, ses rampes, ses chalands et ses cales sèches. Un pick-up Ford sale est garé devant un hangar qui fait l'angle avec un grand entrepôt en tôle ondulée. Sur la vitre obscure du hangar se trouvent des lettres autocollantes à demi effacées. La mer. Les plus petites lettres en dessous ont été grattées, mais on arrive encore à lire sous la poussière « Club de plongée ». La lourde barre de la porte est posée sur le côté. Kenneth attend un court instant, écoute, puis ouvre doucement la porte. Il fait noir dans le petit bureau. Il n'y a qu'une table, quelques chaises pliantes en plastique et une ou deux bouteilles d'oxygène rouillées. Un panneau bosselé, représentant des poissons exotiques dans l'eau vert émeraude, est accroché au mur. L'endroit est manifestement abandonné. Le club de plongée a peut-être cessé son activité, fait faillite ou déménagé. Un ventilateur se met à vrombir derrière la grille et la porte intérieure fait un petit bruit sec. Kenneth pose un doigt sur sa bouche. Des pas résonnent. Il se presse vers la porte, ouvre et regarde à l'intérieur d'un grand entrepôt. Quelqu'un court dans le noir. Simone s'efforce de voir ce qui se passe. Kenneth descend un escalier en acier, part à sa poursuite, mais soudain il pousse un cri.
« Papa !»
hurle Simone. Elle ne peut pas le voir, mais elle entend sa voix. Il jure et lui ordonne de faire attention.
« Ils ont fichu des barbelés !»
Un bruissement métallique parcourt le sol en béton. Kenneth a repris sa course. Simone le suit, enjambe les barbelés, poursuit à l'intérieur du grand local. L'air est froid et humide. Il fait noir et il est difficile de s'orienter. Des pas rapides résonnent plus loin. La lumière émise par le projecteur d'une grue tombe à travers une fenêtre crasseuse. Simone voit quelqu'un près d'un chariot élévateur. C'est un garçon, avec un masque sur le visage, un masque gris en tissu ou en carton. Il tient une barre de fer dans la main, piaffe nerveusement, s'accroupit légèrement. Kenneth longe rapidement les rayonnages et se rapproche de lui.
« Derrière le chariot !»
crie Simone. Le garçon se jette en avant et lance la barre en direction de Kenneth. Elle vrille et passe juste au-dessus de sa tête.
« Attends, on veut juste te parler !»
crie Kenneth. Le garçon ouvre une porte en acier et se précipite dehors. La porte grince et la lumière inonde l'intérieur. Kenneth est déjà à la porte.
« Il s'échappe !»
siffle-t-il. Simone le suit, sort, mais glisse sur l'appontement humide. Elle sent une odeur d'ordure. Elle se relève et voit son père courir le long du quai. La neige fondue a rendu le sol glissant et, quand Simone se lance à leur poursuite, elle manque de peu de glisser et de basculer par-dessus bord. Elle court, voit les deux silhouettes devant elle et le vide tout autour. La bouillie noire d'eau glacée clapote contre le quai. Elle sait que, si elle trébuche et tombe, l'eau glacée la paralysera en un rien de temps et qu'elle coulera comme une pierre avec son épais manteau et ses bottes remplies d'eau. Elle repense alors à cette journaliste morte avec son amie après que sa voiture avait dérapé sur le quai. Elle avait coulé comme une nasse, engloutie par la vase molle du fond et disparue à jamais. Elle s'appelait Katz Falk. Elle est essoufflée et tremble sous l'effet combiné du stress et de l'effort. Son dos est trempé de pluie. Kenneth semble avoir perdu le garçon. Il est plié en deux et attend Simone. Le bandage s'est défait autour de sa tête et il halète, manque d'oxygène. Un filet de sang coule de son nez. Ses poumons sifflent. Un masque en carton gît à terre. Il est à moitié dissous par la pluie. Soulevé par le vent, il frétille puis s'envole par-dessus la bordure du quai.
« Putain de merde !» dit Kenneth quand elle le rejoint.
Il s'éloigne de l'eau tandis que l'obscurité se referme sur eux. La pluie s'est calmée, faisant place à un vent fort qui hurle autour des grands bâtiments en tôle. Il longe une cale sèche et Simone entend le chant grave et monotone du vent monter d'en bas. Des pneus de tracteur sont suspendus à des chaînes rouillées le long du bord en guise d'amortisseur. Elle regarde au fond du trou monstrueux creusé dans la pierre. Un énorme bassin sans eau, avec des parois rocheuses et rugueuses, renforcées par du béton armé. 50 mètres plus bas, elle peut voir un sol en béton avec de grands socles. Une bâche bat au vent et la lumière d'une grue vacille sur les murs verticaux de la cale sèche. Soudain, Simone voit une forme assise derrière l'un des socles en béton tout en bas. Kenneth sent qu'elle s'est arrêtée et se retourne d'un air interrogateur. Sans un mot, elle désigne du doigt le fond de la cale sèche. L'ombre accroupie se dégage de la lumière. Kenneth et Simone se précipitent jusqu'à l'escalier étroit le long du mur. La silhouette se lève et commence à courir en direction de quelque chose qui ressemble à une porte. Kenneth s'agrippe à la balustrade, dévale les marches abruptes, glisse mais retrouve l'équilibre. Il y a une odeur lourde et vive de métal, de rouille et de pluie. Ils continuent de descendre collés au mur. Ils entendent les pas résonner dans les tréfonds de la cale. Le fond est mouillé. Simone sent l'eau gelée s'infiltrer dans ses bottes. Elle a froid.
« Où est-il passé ? »
crie-t-elle. Kenneth court entre les socles qui servent à caler le navire une fois l'eau pompée. Il désigne l'endroit où le garçon a disparu. Contrairement à ce qu'il pensait, il n'y a pas de porte, mais une sorte de vanne. Kenneth regarde à l'intérieur, mais ne voit rien. Il est essoufflé, s'essuie le front et le cou.
« Allez, sors !»
allait-il.
« Ça suffit maintenant !»
Ils entendent un bruit râpeux, lourd et rythmé. Kenneth se met à ramper dans la vanne.
« Fais attention, papa !»
Quelque chose craque, puis la porte de l'écluse se met à grincer. Simone entend un chuintement et comprend ce qui est en train de se passer.
« Il fait entrer l'eau !»
crie-t-elle.
« Il y a une échelle ici !»
entend-elle Kenneth hurler. Avec une pression terrible, des jets d'eau glacée jaillissent dans la cale sèche. Le craquement métallique reprend et les portes s'écartent davantage. L'eau coule à flots. Simone court vers l'escalier. L'eau monte, elle se débat dans l'eau glaciale qui lui arrive aux genoux. La lumière de la grue danse sur les parois rugueuses. L'eau est traversée de courants, de puissants tourbillons l'aspirent en arrière. Elle heurte une imposante ferrure en métal et sent la douleur engourdir son pied. De grandes masses d'eau noire se déversent par à coups. Elle atteint l'escalier abrupt et commence à grimper au bord des larmes. Après quelques marches, elle se retourne. Elle n'arrive pas à voir son père dans l'obscurité. L'eau est montée au-dessus de la vanne. Elle tremble de tout son corps, continue de monter. L'air lui brûle les poumons. Puis, elle entend le grondement de l'eau déchaînée s'estomper progressivement. Les portes se referment et le torrent d'eau se tarit. Elle ne sent plus sa main accrochée à la balustrade métallique. Ses vêtements lourds lui serrent les cuisses. Simone arrive en haut et voit Kenneth de l'autre côté de la cale sèche. Il lui fait signe de la main et conduit un garçon en direction de l'ancien club de plongée. Simone est trempée, ses mains et ses pieds sont frigorifiés. Ils l'attendent près de la voiture. Kenneth a un regard étrange, absent. Le garçon se tient devant lui, la tête penchée sur le côté.
« Où est Benjamin ?»
crie Simone avant même de les avoir rejoints. Le garçon ne dit rien. Simone le prend par les épaules et le retourne. Elle est tellement surprise quand elle voit son visage qu'elle gémit. Le nez du garçon est coupé. On dirait que quelqu'un a essayé de recoudre la plaie, mais à la va-vite, sans aucune expérience médicale. Son regard est complètement apathique. Le vent mugit. Ils vont tous les trois à la voiture. Simone démarre le moteur et pousse le chauffage. Les vitres se drapent rapidement de buée. Elle trouve un peu de chocolat qu'elle propose au garçon. Un silence de mort plane dans la voiture.
« Où est Benjamin ?» demande Kenneth.
Le garçon regarde ses genoux. Il mâche le chocolat et avale.
« Maintenant tu me racontes tout, tu entends? Vous avez frappé d'autres enfants, pris leur argent. »«
Je n'existe pas, j'ai arrêté. »
chuchote-t-il.
Pourquoi est-ce que vous maltraitiez d'autres enfants ?
Demande Kenneth.
C'était comme ça, Canton.
C'était comme ça ? Où sont les autres ?
Je ne sais pas. Comment je pourrais le savoir ? Ils ont peut-être d'autres gangs maintenant. C'est le cas pour Jerker, d'après ce que j'ai compris.
C'est toi, Waylord ?
La bouche du garçon tressaille.
J'ai arrêté maintenant, dit-il faiblement. Je vous jure que j'ai arrêté.
« Où est Benjamin ?»
demande Simone d'une voix stridente.
« Je ne sais pas, » s'empresse-t-il de répondre. « Je ne lui ferai plus jamais de mal, c'est juré. »«
Écoute-moi, » poursuit Simone. « Je suis sa maman, il faut que je sache. »
Mais le garçon se met à se balancer d'avant en arrière. Il pousse des sanglots perçants en répétant encore et encore
« Je le jure, je le jure, je le jure. »
Kenneth pose la main sur le bras de Simone.
« Il faut qu'on l'emmène, » dit-il d'une voix creuse. « Il a besoin d'aide. »